C'est la revue de presse des Hebdo. On dit bonjour Arlette. Bonjour Arlette.
Bonjour Léo, bonjour à tous et à toutes.
Cette semaine, dans les 5 Hebdo que tu as décortiqués pour Radio Campus, tu as constaté que deux thèmes avaient la vedette, la guerre, ses acteurs et ses accessoires, et le climat, l'écologie en général. Dans le Canard enchaîné, c'est le climat qui l'emporte.
Alors, j'y vais fort quand je dis qu'il l'emporte. Mais enfin, néanmoins, à la une, le titre c'est « Climat, la Cour des comptes veut réduire le nombre des vaches ». Pour une fois qu'elle a une idée de génisse. A retrouvé en dernière page un complément d'enquête sur le même sujet. Elles sont 17 millions, les vaches, et produisent 11,8 des émissions de gaz à effet de serre. Alors c'est trop, il va falloir couper des têtes. Éric Emtaz, dans son édito, fait le point sur les deux thèmes, sur le budget de l'armement, 413 milliards sur 7 ans, ce n'est pas loin de 60 milliards par an, ce qui représente à peine moins que les 66 milliards que coûtera chaque année l'urgence d'une action d'envergure dans la planification écologique. La défense du climat n'est certes pas donnée, mais comme la défense nationale, elle risque de coûter plus cher si on ne s'assure pas. La Cour des comptes devrait peut-être aussi se pencher sur la température de l'eau pompée et rejetée par les centrales nucléaires pour les refroidir. La température de ces eaux de refroidissement, lors de la canicule, ont dépassé allègrement la norme fixée pour protéger la faune, poissons, crustacés, amphibiens, castors, canards, etc., et la flore aquatique. Qu'a alors fait EDF ? Elle a simplement demandé et obtenu des dérogations. Ben voyons. À lire l'article en page 5. En dernière page, les oiseaux sauvages, c'est ringard désormais. Un article à faire frémir tous les adeptes des nuggets. Si le nombre des oiseaux sauvages, toutes espèces confondues, a diminué en 37 ans de 57% en milieu agricole, celui des poulets élevés en batterie, dans des hangars concentrationnaires qui en entassent 40 000 sous le même toit, explose. Vaccinés, nourris à coups d'antibiotiques et de granulés pour être passés à la casserole en 42 jours montre en main, eh ben, bon appétit les petits.
Et si la pizza n'était pas italienne ? Titre en couverture Courrier International.
Cette question posée par une journaliste italienne dans le long article du Financial Times a mis le feu dans la presse italienne. Le quotidien conservateur Il Giornale s'insurge. Un assaut contre la cuisine italienne. Tandis que le site d'information progressiste Fanpage évoquait une destruction des mythes. Une attaque surréelle qui ferait sourire si elle ne comportait pas des dangers pour l'économie, a écrit de son côté la Stampa. Et quant au dérèglement climatique, il faudra aller lire le nouveau hors-série du Courrier à table, paru le 17 mai. Un numéro dans lequel on se demande aussi, à l'heure du dérèglement climatique, comment nourrir la planète sans la détruire. Insectes, viande végétale, algues. Dans les cuisines et les laboratoires s'inventent les assiettes de demain. La gourmandise n'est pas oubliée dans ces 76 pages avec des portraits de chefs qui innovent et les success stories de plats venus du monde entier. Alors régalez-vous. Et si les IA vous intéressent, Courrier International a traduit en exclusivité la tribune de l'essayiste Naomi Klein parue dans The Guardian. Les IA organisent le plus grand pillage de l'histoire de l'humanité. Quand elles se fourvoient, les intelligences artificielles hallucinent, disent leurs concepteurs. Cet emprunt au vocabulaire de la psychologie leur permet de renforcer le mythe de machines douées de raison et capables de sauver l'humanité, alors qu'elles sont de terrifiants instruments de spoliation, affirme-t-elle. Alors c'est peut-être à lire avant de se laisser mystifier, ça vous prendra 8 minutes.
Tiens, dans Télérama, je pensais qu'en ce temps de festival de Cannes, le cinéma serait à l'honneur.
Eh bien, pas plus que d'habitude. Ce sera pour la semaine prochaine. Hein, parce
sûrement.
Que, voilà, exactement, les prix seront décernés. Non, cette semaine, trois chroniques ont retenu mon attention. Deux articles sur les pesticides. Dans premier plan, intouchables pesticides. Le 11 mai, Emmanuel Macron appelait, lors de sa présentation du plan « Accélérer notre réindustrialisation », à une pause dans la réglementation environnementale européenne. Mardi 16 mai, c'était au tour du Sénat, dominé par la droite, d'opérer non pas une pause, mais un brutal rétropédalage en rouvrant grand la porte aux pesticides. et en page 30, une rencontre avec un timide opiniâtre, le sénateur Joël Labbé, ancien ouvrier agricole que rien ne destinait à fréquenter les ors de la République. En 2014, il obtenait l'interdiction des pesticides dans l'espace public. Hein, et cette interdiction dure toujours. Hein. C'est pour ça que vous D'accord. avez des petites fleurs dans les rues, le long des trottoirs. C'est grâce à lui. Alors retenez son nom, il s'appelle Joël Labbé. La phrase de René Char lui a servi d'aiguillon. Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. Il ajoute, j'ai compris combien les dés sont pipés aujourd'hui encore, avec un monde politique conventionnel, travaillant main dans la main avec les grands groupes, la FNSEA. Il publie « L'utopie et la vie », le combat d'un sénateur breton contre les pesticides, c'est chez Actes Sud. Et puis, dans la rubrique « Penser autrement », Younes Bouzna nous livre ses réflexions sur l'acteur numéro un de la guerre en Ukraine, Poutine, après avoir lu « Vladimir Poutine, l'accusation » aux éditions Fayard. Alors, « Vladimir Poutine, l'accusation », c'est écrit par ceux qui ont une foi inébranlable dans la justice internationale et qui rêvent d'entendre « Accusez Poutine, levez-vous », c'est-à-dire l'ancien ministre de la Justice Robert Badinter, Bruno Cotte, président honoraire de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, et Alain Pellet, ex-président de la Commission du droit international à l'ONU. Ces trois personnalités déplient les fondements juridiques de l'acte d'accusation du président russe. Ce réquisitoire est complété par « Peut-on juger Poutine ?» point d'interrogation. C'est paru chez Albin Michel, dans lequel Mathilde Philippe Gay, professeure de droit public à l'université Jean Moulin de Lyon, entend montrer pourquoi il faut juger les responsables de crimes d'agression de 2022 contre l'Ukraine, alors même que de précédents crimes d'agression tout aussi illégaux ne l'ont pas été. Pour elle, l'impunité serait insupportable.
Le 1 examine un autre acteur de la guerre, des guerres plutôt.
Le 1 enquête sur le phénomène des SMP, les sociétés militaires privées. Il y a Wagner qui donne le titre à ce numéro. Wagner, le bras armé de Poutine, évidemment. Mais Laurent Grail-Sammer dans le Zakouski précise. À travers la figure déconcertante de Wagner, ce numéro du 1 brosse l'histoire et le tableau de cette nouvelle façon de gérer l'outil militaire et de faire la guerre. Encore faut-il reconnaître que le groupe Wagner et son président tranchent nettement dans cet univers opaque. Le cuisinier de Poutine. Alors pourquoi on l'appelle le cuisinier de Poutine,
tu sais ? Je ne sais pas du tout.
Eh bien, c'est parce qu'il était cuisinier et qu'il avait un restaurant. Tout et que fait. C'est là où M. Poutine l'a rencontré. Ils sont devenus copains et il en a fait un chef de guerre. Enfin, c'était un ancien militaire quand même avant d'être cuisinier. Alors le cuisinier de Poutine a plus que modifié la recette des SMP. La rédaction du 1 s'est entourée de spécialistes pour nous faire découvrir ce monde opaque des mercenaires aux ordres des nations qui ne s'en vantent pas toujours. Pierre de Jongle, l'ancien aide de camp des présidents Mitterrand et Chirac, revient, lui, sur l'apparition des SMP au crépuscule des années 1980 et explique comment, après le 11 septembre, le recours à ces entreprises s'est peu à peu banalisé. L'ONU et l'Union européenne n'hésitant pas elles-mêmes à leur déléguer des missions. Au commencement était Blackwater. Sylvain Sipel, ancien correspondant à New York et membre du comité de rédaction du 1, retrace l'histoire de la plus célèbre des SMP américaines. Ce groupe, qui a bien des fois changé de nom, demeure un symbole de l'ère Bush Junior et de ses errements de privatisation sans frein à l'occupation calamiteuse de l'Irak. Pour en revenir à Wagner, Xenia Bolshakova, journaliste d'investigation, co-autrice du documentaire « Wagner, l'armée de l'ombre de Poutine », explique comment le groupe, violent, sans existence juridique, a changé de statut à la faveur de la guerre en Ukraine, sans rien relier de sa brutalité et de son illégalité.
C'est le même thème dans l'Express, en couverture, un militaire grimaçant, un titre « Wagner contre l'Occident ».
De l'Ukraine à l'Afrique, il est temps de stopper l'hydre Wagner. C'est le titre du premier édito, signé Charles Haquet et Cyril Pluyette, consacré à ce sujet. Ce groupe aux sinistres activités en dehors de tout cadre légal pose un défi nouveau à nos démocraties. Combattre un ennemi qui n'existe pas. Le dossier est entièrement consacré à cette SMP que plus personne n'ignore. 5 articles déclinent le thème sous tous ses aspects. Le chef, Evgeny Prigogine, Saint-Pétersbourg, là où tout a commencé pour le chef Wagner. La Centrafrique, laboratoire de Wagner, le pays ressemble à une colonie russe. Un ex-membre de Wagner raconte l'horreur à Bakhmout. Les soldats russes sont des fumiers. Wagner et l'armée russe. Prigogine, Shoigu, deux ennemis jurés lancés dans une lutte à mort. Alors Shoigu, c'est le ministre russe de la Défense. Le député Renaissance, Benjamin Haddad, je suppose que ça se prononce Haddad, est à l'origine d'une résolution qualifiant le groupe de mercenaires russes d'organisation terroriste. Wagner mène une guerre hybride contre nos démocraties. Bon, ouf, hein. Alors, côté écologie, l'Express nous propose tout de même un reportage de Sébastien Julien dans la chronique Climat et Transition. Coton bio, bicudo et écologie. Derrière les baskets Veja, ouais, parce que c'est du portugais, ah enfin, oui. Bref, c'est un peu compliqué. Les baskets Veja, une étonnante filière de production. Au nord-est du Brésil, le fabricant des sneakers soutient une communauté de petits producteurs aux pratiques 100% écolo. Le coton que l'on trouve ici est rare. Il repose sur l'agroécologie, un ensemble de pratiques qui n'appauvrit pas le sol, n'utilise pas de produits chimiques et mélange plusieurs cultures, coton, maïs, haricots, sésame, dans un même champ. Détail Sébastien Kopp, l'un des cofondateurs de la société. Bon, ben, il n'y a pas que des salauds de Wagner dans le monde
même. Il y a aussi tous ceux qui sont nés sous le signe du Gémeaux. Des Gémeaux, Rob Bresny leur consacre l'horoscope de la semaine.
Ton périple dans les méandres de la terre sans promesse a été moins pénible que tu le craignais. La lutte contre le dragon métaphorique t'a légèrement déstabilisé, mais tu respires encore et tu continues d'aller de l'avant et cet improbable frisson d'aventure semble même t'avoir ragaillardi. Ton beau rêve a certes été quelque peu écorné, mais cette contrariété tournera à ton avantage puisqu'elle te poussera à mettre les bouchées doubles pour donner corps à tes plus folles aspirations. Réjouis-toi de ces épreuves, Gémeaux, car elles ont nettoyé ton karma, t'ouvrant ainsi à une multitude de nouveaux soutiens et de ressources inattendues.